Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Il a été un président abracadabrantesque, rendons-lui son épithète. Jacques Chirac est mort ce matin à son domicile parisien. Un président populaire au cul des vaches, de la Corrèze au salon de l'agriculture. Une silhouette immense, une énergie et un appétit vorace. Nous raconterons sa trajectoire politique. On l'a dit, de gauche quand il était jeune, il présidera à droite. En tout cas, les hommages dépassent largement les clivages politiques ce soir de ses anciens adversaires, Lionel Jospin, Jean-Marie Le Pen, à ses plus proches, tous salue son héritage. À l'étranger aussi, Jacques Chirac a laissé son empreinte dans les pays arabes, chez les Palestiniens et au Japon, dont la culture et les sumo le passionnaient. Nous reviendrons aussi sur les facettes plus sombres de sa carrière politique, les affaires, sa condamnation en justice et certaines phrases au goût amer comme le bruit et l'odeur. Dans ce journal, nous irons aussi à Rouen, quelques heures après l'incendie d'une usine classée Seveso. L'immense panache de fumée inquiète la population ce soir. Les écoles restent fermées demain.
Allez, en un mot, je vous le redis, téléphone sonne XXL ce soir pour parler de ce que vous évoque Jacques Chirac, ce que vous en retenez. Pour conserver l'équilibre habituel du 18-20, on parlera politique étrangère d'abord et ce sera avec Hubert Védrine. Et puis ensuite, à partir de 19h20, on élargit la focale, notamment avec Catherine Clément. Ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000. Nous écouterons aussi ensemble d'ailleurs l'allocution d'Emmanuel Macron à partir de 20h. On est parti.
France Inter.
On le savait donc très affaibli, la nouvelle est tombée juste avant midi.
Un lion politique est mort ce soir. Jacques Chirac s'est éteint chez lui, à son domicile de la rue Tournon, dans le 6e arrondissement de Paris. Il avait 86 ans, le 5e président de la 5e République, a marqué l'histoire de France, de sa silhouette sportive, de son verbe haut, de ses bains de foule et ses poignées de main. Jacques Chirac était une figure très populaire, peut-être encore plus après la fin de ses deux septennats. On vous rejoint devant son dernier domicile, Yann Gallic, bonsoir.
Bonsoir.
Les passants se souviennent donc d'une figure sympathique avant tout.
Oui, des dizaines d'anonymes sont rassemblés ici derrière les barrières de sécurité installées à quelques mètres du domicile de Jacques Chirac. Un hôtel particulier prêté par son ami, l'homme d'affaires François Pinault. Des passants, des touristes, des voisins sont venus rendre un hommage spontané à l'ancien président. Une rose blanche à la main, Marie a travaillé pour la ville de Paris. Elle a côtoyé Jacques Chirac quand il était maire de la capitale.
Il était élégant, il parlait bien, je l'aimais beaucoup. Et puis comme je travaillais avec lui, j'avais beaucoup de respect pour lui. Je connaissais la part de lui qui est merveilleuse, celle d'un homme accessible, gentil, humain. Il n'avait le dédain de personne.
Jacques Chirac jouissait d'un immense capital sympathie, y compris chez les plus jeunes comme Nicolas.
J'ai été marqué par sa vie politique, bien sûr, sa connaissance de la culture asiatique incroyable. C'est au-delà de l'homme politique, c'est de l'humanité, du dialogue des civilisations, du dialogue des peuples. C'est extraordinaire, Jacques Chirac, pour moi.
C'est l'un des présidents de la République qui vous a le plus marqué ?
Ah oui, incontestablement, c'est le plus marquant pour moi. Et il dégage quelque chose aussi de très paysan, de terrien. C'est important pour parler aux gens.
Avant son allocution télévisée de ce soir, le président Emmanuel Macron pourrait passer ici, rue de Tournon, pour présenter ses condoléances à la famille Chirac.
Yann Gallic avec Raymond Alboué au moyen technique. Merci à vous deux. La Tour Eiffel s'éteindra ce soir à partir de 21h à Paris en hommage. Jacques Chirac, le président réélu avec le score le plus impressionnant de la 5e République, le 5 mai 2002 face à Jean-Marie Le Pen au second tour. 82,2% des électeurs votent pour lui contre l'extrême droite.
Ce soir, nous célébrons la République. Nous la célébrons comme chaque fois dans l'histoire qu'elle a remporté une victoire. Comme toujours, face à l'épreuve, la voici debout, fière, fidèle à ses valeurs, présente, forte, rassemblée. Ne laissons pas retomber ce souffle qui nous a portés.
Il va alors incarner le front républicain, le rempart contre l'extrême droite, le rassembleur d'une nation au bord de la fracture. Il dépasse les clivages. Lui que l'on dit de gauche dans sa jeunesse, il a vendu l'Humanité, le journal communiste, rue de Vaugirard à Paris. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Vous nous rejoignez pour évoquer la figure politique. Karine, a-t-il été réellement cet homme de gauche qui a présidé à droite ?
Pas tout à fait. Vous savez, c'est son anti-sarkozisme à la fin de sa carrière politique qui, en réalité, le recentre politiquement et qui donne l'impression d'un Jacques Chirac radical socialiste. Mais c'est oublié sans doute un peu vite tout le parcours de cet homme qui commence avant les années 70. Face à Jacques Chaban-Delmas en 1974, eh bien Jacques Chirac apparaît clairement à droite. Même chose en 1995 face au trop tendre Édouard Balladur. Et en 2002, toute sa campagne présidentielle est une campagne très dure, axée sur les questions de sécurité. Donc c'est le temps qui passe, qui a arrondi, qui a assoupli le personnage, et c'est aussi, vous l'avez dit, son combat inflexible et durable contre le FN de Jean-Marie Le Pen qui en a fait, aux yeux d'une majorité de Français, un homme devenu politiquement sympathique.
Alors Jacques Chirac, c'est aussi l'homme des cohabitations. Premier ministre de Mitterrand, et puis après la dissolution de l'Assemblée nationale en 97, son plus grand rattache politique, hein, il est obligé de mettre le socialiste Lionel Jospin à Matignon.
Oui, l'homme de droite a dû souvent partager le pouvoir avec la gauche socialiste. Mais souvenez-vous, à l'époque de François Mitterrand président, c'est le Premier ministre véritablement qui exerce le pouvoir. Et en 1986, il applique en matière économique un libéralisme réganien. On en sera effectivement très loin ensuite avec Lionel Jospin. Donc non, pas un homme de gauche. Jacques Chirac s'est toujours revendiqué de droite dans la lignée de Georges Pompidou. C'est d'ailleurs pas un idéologue comme Georges Pompidou, plutôt un humaniste parfaitement pragmatique.
Merci Karine Bécard. De la gauche à la droite. D'ailleurs, les condoléances arrivent de tous les bords politiques. Le président Emmanuel Macron, on l'a entendu, lui rendra hommage ce soir à 20h dans une allocution télévisée que vous pourrez suivre également sur France Inter. En conséquence, le premier grand débat sur la réforme des retraites qui devait avoir lieu ce soir à Rodez est reporté. François Fillon dit de lui qu'il aimait charnellement la France et les Français, mais se sentait aussi voyageur du monde, de l'Afrique à l'Asie. Son ancien premier ministre Lionel Jospin reconnaît aujourd'hui le privilège qu'il a eu de gouverner la France sous sa présidence. Quand vous êtes 5 ans une des deux têtes de l'exécutif, ajoute-t-il, vous avez forcément le souvenir de moments de cordialité que l'exercice du pouvoir peut aussi réserver. Même Jean-Marie Le Pen, son adversaire à la présidentielle de 2002, même Jean-Marie Le Pen s'incline, mort, écrit-il, même l'ennemi a droit au respect. Quant à son tout premier chef du gouvernement, Alain Juppé, qu'il avait qualifié du meilleur d'entre nous, il veut se rappeler aujourd'hui son héritage politique important.
Son empreinte restera dans bien des domaines. Il a fait des réformes importantes. J'entendais parler tout à l'heure de la réforme du service national. C'était aussi la réforme de la défense nationale, la professionnalisation de nos armées. Aujourd'hui, nous avons une des armées les plus opérationnelles du monde sur les théâtre d'opérations extérieures, on le doit en grande partie à l'action qu'il avait engagée à ce moment-là. Je voudrais aussi souligner son engagement européen, parce qu'en 1992, s'il ne s'était pas engagé à fond pour la ratification du traité de Maastricht, cette ratification ne serait pas intervenue. Et quand il a été ensuite au pouvoir, du temps où j'étais Premier ministre, et ensuite, il a toujours soutenu les mesures qui ont permis à la France de se qualifier pour l'euro, dont nous voyons aujourd'hui les effets de stabilité qu'il a sur notre économie.
Le décès de Jacques Chirac a été annoncé ce matin dans les deux chambres du Parlement. En séance, le Sénat et l'Assemblée nationale ont observé une minute de silence. Le Palais Bourbon ou Laurence Perron ont salué la mémoire d'un grand fauve politique, d'un homme d'État.
Il n'est pas encore midi. Soudain, le président de l'Assemblée nationale interrompt les débats.
Mes chers collègues, nous venons d'apprendre le décès de Monsieur Jacques Chirac. Je vous demande de bien vouloir, en hommage à sa mémoire, observer une minute de silence.
À la sortie de la séance, Richard Ferrand.
Il incarnait vraisemblablement un art particulier d'être français.
Et de confier un petit peu plus tard que c'est ce type de figure capable d'incarner l'unité dont le pays a besoin aujourd'hui. À gauche, on se refuse à évoquer les combats d'antan. Éric Coquerel, député de la France Insoumise, loue plutôt le courage de l'homme d'État.
Je veux dire qu'avec les années, les moments forts l'emportent. Voilà. Ces moments forts, c'est le non à la guerre en Irak, ses coups de gueule à Jérusalem. Il fait qu'au moins, au point de vue international, on va dire que c'est le dernier président de gauche dans ce pays.
Les larmes dans la voix, Claude Goasguen, qui fut son adjoint à la mairie de Paris, son ami aussi, qui lui rendait visite il y a encore quelques mois.
C'est très difficile de parler avec l'émotion. C'est un modèle. Écoutez, je ne peux pas comprendre la droite sans Jacques Chirac. Et je trouve que la droite a perdu ce côté d'empathie à l'égard du peuple, qu'il n'avait même pas sur le plan doctrinal, qui était naturel chez lui. Car il était le peuple. Il était le peuple dans toutes ses composantes.
Un temps comme suspendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans l'attente aussi des mots que prononcera ce soir le président de la République.
Laurence Perron au Palais Bourbon à Paris.
Hommage, Amélie, également à Jacques Chirac à l'étranger.
Il a été un formidable partenaire et ami pour la chancelière allemande Angela Merkel. Un dirigeant sage et visionnaire pour le russe Vladimir Poutine. Le premier ministre britannique Boris Johnson parle d'un formidable dirigeant qui a façonné le destin de la France. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, salue un grand homme d'État et un ami. Au Proche-Orient aussi, on pleure la mort d'un président ami intime de la famille de l'ancien premier ministre Hariri au Liban. Jacques Chirac, c'est aussi le chef de l'État qui dira non à la guerre en Irak en 2003. Non au président George W. Bush. Non à ce conflit en terre arabe voulu par des Américains meurtris par les attentats du 11 septembre. Et souvenez-vous encore, cette scène à Jérusalem, dans la vieille ville, en octobre 1996. Jacques Chirac veut saluer la population arabe, mais les forces de sécurité israéliennes s'interposent.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation.
Voilà le président français qui tient tête au service israélien pour aller à la rencontre des Palestiniens. Aujourd'hui, dans les territoires, on se souvient d'un allié face à l'État hébreu. Écoutez le reportage de Marine Vlaovic, notre correspondante dans la bande de Gaza.
Assis au coin d'une artère principale de la ville de Gaza, Tarek est encore abasourdi par l'annonce du décès de Jacques Chirac.
Jacques Chirac était un bon président, c'était un homme politique qui était un ami des Palestiniens.
Et les Palestiniens ont perdu un fervent supporter de leur cause, avoue le quadragénaire.
Ils pensaient que la cause palestinienne reposait sur la justice et le droit, qu'il repose en paix.
Tarek se souvient bien de la visite de l'ancien président de la République ici à Gaza, qui remonte à 1996. Ahmed lui aussi l'a gravé dans sa mémoire, même s'il était bien plus jeune.
Moi j'étais un jeune scout dans mon école. Je lui ai donné des fleurs, il m'a serré la main, mais il était si grand. C'est un bon souvenir. C'était quelqu'un de bien. Et au moins, c'était le premier président étranger à mettre notre cause en priorité.
Jacques Chirac, au revoir. Je t'aime, présidence Jacques Chirac.
Gaza, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
Parmi les autres phrases fortes que l'on retient ce soir de la carrière politique de Jacques Chirac, celle-ci, terriblement d'actualité, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », prononcée au sommet de la Terre à Johannesburg, c'était en septembre 2002, il y a 17 ans, pour Nicolas Hulot, interrogé sur notre antenne à la mi-journée. Cette phrase a été un jalon, elle a fait le tour du monde. Jacques Chirac a participé au début de la prise de conscience environnementale.
Jacques Chirac, personnage complexe, c'est aussi un revers plus obscur.
Jacques Chirac et les affaires. Son nom a été régulièrement évoqué dans 8 affaires judiciaires dans les années 90, à l'époque de la mairie de Paris, des emplois fictifs au HLM. En décembre 2011, 4 ans après la fin de son dernier mandat présidentiel, le tribunal correctionnel de Paris le condamne à 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, abus de confiance, prise illégale d'intérêt et délit d'ingérence. C'est la première fois qu'un ancien président de la République est condamné par la justice. Le juge Éric Alphen, qui a instruit l'affaire des HLM de Paris et des Hauts-de-Seine, juge sévèrement l'héritage de Jacques Chirac.
Je rappelle qu'à l'époque, on parlait d'État RPR. Les marchés de la ville de Paris, ça se comptait en dizaines et centaines de millions d'euros. Et tout ça a été donné uniquement aux entreprises qui étaient dirigées par les copains du RPR et du maire de Paris. Donc je sais bien qu'en de telles circonstances, il est de bon ton de faire des compliments et de retenir les bonnes choses des chefs de l'État. Mais Jacques Chirac n'aura pas laissé que des bons souvenirs, et surtout, il aura montré le mauvais côté de la politique, c'est-à-dire celui où on se sert des marchés publics pour enrichir un parti, pour arriver au pouvoir, grâce aux commissions qui étaient versées à l'étranger. Donc, moi, je retiendrai surtout le chef de l'État qui a abaissé la fonction présidentielle par le fait qu'il est arrivé au pouvoir par de mauvais chemins.
Le juge Alphen, interrogé par Frédéric Carbone de France Info. Une odeur de soufre, le bruit et l'odeur, c'est une phrase de Jacques Chirac, restée également à la postérité. Il évoque là une autre question, elle aussi encore d'actualité. Aujourd'hui, on parle des migrants à l'époque. On dit étrangers ou immigrés.
Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or et qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit... sur le palier à côté de son HLM, entassé une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou.
Le bruit et l'odeur, une phrase qui inspirera le groupe Zebda. Mais l'héritage artistique de Jacques Chirac, c'est quand même avant tout un musée. L'homme était passionné par les arts premiers, les civilisations d'Asie, d'Océanie et d'Afrique. Il en a fait donc un musée, le Quai Branly à Paris. Il porte d'ailleurs son nom depuis quelques années. Jacques Chirac cultivait aussi une passion pour le Japon et sa culture. Il s'y est rendu régulièrement pendant ses mandats présidentiels. La nouvelle de sa mort aujourd'hui a été annoncée immédiatement par les télévisions nippones, même si son souvenir s'est estompé ces dernières années. C'est le reportage de notre envoyé spécial au Japon, Jérôme Val.
Cette jeune fille de 22 ans, née alors que Jacques Chirac était au pouvoir en France, a appris la nouvelle de son décès tôt dans l'après-midi.
J'ai appris cette nouvelle dans les médias tout à l'heure. Je ne me souvenais plus de lui, mais quand je l'ai vu, ça me disait quelque chose.
Sous la très haute galerie commerciale de Kumamoto, nous rencontrons un salarié touché par la disparition de Jacques Chirac.
Je suis ému, je l'ai déjà vu. Je savais que c'était l'ancien président français. Mais je ne pourrais pas vous dire ce qu'il a fait précisément.
Chirac, le nom français le plus connu ici avec Napoléon et Zidane, mais un souvenir qui tend à s'effacer même s'il était apprécié à chacune de ses très nombreuses visites au Japon.
Je l'ai vu beaucoup de fois à la télévision, c'est pour ça que je le connais, mais je ne me rappelais plus son nom.
Le nom de l'ancien président n'évoque pas toujours des souvenirs précis chez les personnes que nous abordons, mais Mayumi se rappelle de son amour pour la culture japonaise.
Il a été un grand admirateur et un grand promoteur de la culture japonaise. C'était notamment un passionné du sumo.
Et à chacune de ses visites, il ne ratait jamais les combats de sumo. Kumamoto, Jérôme Val, France Inter.
La mort de Jacques Chirac, ancien président de la République, ses phrases choquent, son héritage et les hommages, c'est à lire sur franceinter.fr et l'on continue d'en parler dans votre 18-20 spécial, Fabienne Santès.
Absolument, avec vous et vos souvenirs, vos marqueurs de la période Jacques Chirac, on commencera par le Jacques Chirac international avec Hubert Védrine notamment, qui vient de s'installer avec nous en studio. Ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000, Amélie. Sinon, l'actualité ce soir à 18h presque 17, c'est un immense nuage de fumée au-dessus de la Normandie.
Un panache de fumée de 22 km de long et 6 de large avec des produits potentiellement dangereux, conséquence de l'incendie la nuit dernière de l'usine Lubrizol, un site classé Seveso, fabriquant des additifs pour les huiles, les carburants et les peintures industrielles. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées resteront fermés demain à mesure de précaution. Selon les autorités, les effets de ce nuage peuvent se révéler irritants et odorants, mais sans toxicité aiguë. Laetitia, elle, habite à moins de 500 mètres de l'usine, au Petit Quevilly, et elle n'est pas rassurée.
On a entendu des explosions, 4 explosions à la suite dans les alentours de 5h du matin. J'avais ma fenêtre ouverte, ça a fait trembler la fenêtre et puis même le volet. Donc après on a entendu des hélicoptères, donc c'est là qu'on s'est informé vite aux informations à la télé. Parce que sinon ici on n'a aucune information, personne vient nous voir. De la peur, de l'angoisse parce que j'ai mon fils qui est asthmatique et qui est sous aérosol. C'est même plus que stressant, je n'ai même pas de mots, plus que de l'angoisse, plus que du stress, plus que de la peur. Parce qu'on se dit, on n'est pas informé du tout. On nous dit, faut pas s'inquiéter. D'accord, on s'inquiète pas, c'est de l'huile. Mais à un moment donné, quand on apprend que les voitures sont noires, qu'on doit porter des masques à telle ville et que nous, on est juste au bord et qu'on nous dit rien, c'est vrai que ça fait peur. C'est irrespirable.
Laetitia, une habitante près de l'usine Lubrizol, en feu au micro de notre reporter Mathilde Dehimi. Un an de prison avec sursis requis contre un ancien garde des Sceaux. L'accusation a demandé un an de sursis contre Jean-Jacques Urvoas devant la Cour de justice de la République pour violation du secret professionnel. Il était jugé pour avoir transmis des informations au député Thierry Soler sur une enquête qu'il visait. Et puis la banque BNP Paribas, visée elle par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité, de génocide et d'actes de torture, des actes commis au Soudan entre 2002 et 2008. Plainte déposée par la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme et par 9 militants soudanais. Ils accusent la BNP d'avoir permis les crimes commis par le gouvernement soudanais en les finançant, en les facilitant. Le groupe bancaire a déjà reconnu et plaidé coupable de la violation de l'embargo américain contre le Soudan. Il avait alors payé une amende record de près de 9 milliards de dollars.
Amélie Perrier pour le journal. Merci beaucoup Amélie. À demain.